Avant, surtout dans les shonen, donc ouais, comme One Piece, 114 tomes, on a même eu les chiffres qui sont tombés il y a de ça deux jours. 600 millions d'exemplaires vendus dans le monde, c'est énormissime. C'est le manga qui a fait le plus de ventes dans le monde entier. Je pense qu'on se rend compte. Et ensuite, juste après, Dragon Ball, qui a entre 400 et 500 millions. Mais enfin, franchement, c'est une folie. C'est vraiment une folie.
C'est voilà, un truc qui fonctionne. La recette, pourquoi ça fonctionne? Toi qui es un spécialiste quand même de cette culture geek, quand on dit c'est Sofiane le geek avec nous, il est geek, Sofiane. Quand même, non?
Effectivement, oui, voilà.
Qu'est-ce qui fait que la recette fonctionne sur un Dragon Ball? Pourquoi ça continue? Je sais pas, c'est une trentaine d'années d'existence, un truc comme ça, même plus d'ailleurs, oui, hein, plus. J'ai des bêtises. Oui.
Depuis 1984, en fait, ça a 40 ans. Ça a commencé,
40 ans, ouais.
Ça a commencé le 21 novembre 1984, la première parution dans le Shonen Weekly Jump au Japon. C'était la première parution du tout premier chapitre de Dragon Ball. Et depuis, ça n'a jamais cessé. La hype est toujours restée présente. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Akira Toriyama, à l'époque, il a été précurseur. Il avait trouvé une formule qui n'avait jamais été faite auparavant. Il s'est beaucoup inspiré des films, des arts martiaux, c'est-à-dire Bruce Lee, Jackie Chan, les films Jurassic Park, Terminator, en fait, tout ce qui fonctionnait bien dans le cinéma, plus tout ce qui fonctionnait bien dans les arts martiaux. Il a fait un mix de tout cela et on a découvert une œuvre qu'il a créé de toutes pièces avec des innovations, des choses, c'est-à-dire le petit garçon Goku qu'on suivait quand il était enfant, lui il a pris le risque, c'était un des seuls mangaka à le faire, dire il va devenir grand. Son éditeur qui était monsieur Torishima à l'époque a dit ouais mais attention, on prend un risque parce que les fans sont habitués à un petit garçon, tu vas le faire grandir, ils vont délaisser l'œuvre. Il a dit non, moi je veux aller dans cette direction, et il a bien fait. Même les transformations, ça a été le mangaka précurseur où on a un personnage qui a les cheveux noirs qui va s'énerver, ils vont se redresser, ils vont avoir une chevelure d'or, le Super Saiyan, ça a été révolutionnaire. Même Sonic s'en est inspiré de tout cela. Donc en fait Dragon Ball aujourd'hui a réussi à marquer son empreinte de par ces innovations faites par le mangaka Toriyama.
Jacob. Je tiens à préciser que Akira Toriyama n'a pas inventé le système de transformation. C'était quelque chose qui était déjà présent. C'est juste qu'il a contribué à sa popularisation.
Alors effectivement, il a contribué à sa popularisation, mais la transformation iconique aujourd'hui dans les mangas que tout le monde retient et qui a été reprise à plusieurs reprises d'ailleurs dans les mangas, c'est le Super Saiyan. Effectivement, on avait par exemple des transformations dans d'autres petits mangas avec Astro Boy, le petit robot qui était déjà un shonen précurseur. On a eu du Goldorak, etc. Mais la véritable transformation du protagoniste qu'on suivait, qui change de couleur de cheveux, de comportement également et de caractère, ça a été Dragon Ball qui a ramené vraiment cette flamme. Voilà.
Sur toute cette culture geek, tu le disais, Sofiane, bientôt 40 ans. Bon, et Sofiane, au bout d'un moment, on va grandir.
Effectivement.
Où est-ce que ça fait partie de grandir justement avec tout ça? Un peu provoque, mais.
Non, mais bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que les mangas, c'est rentré dans les nerfs. Ce n'est plus pour les jeunes ados ou les enfants. En fait, aujourd'hui, les gens ont compris que c'est intergénérationnel. Un manga comme Dragon Ball, tu peux avoir 10 ans, tu peux l'aimer, tu peux avoir 50 ans, tu peux l'aimer. Et on le voit aujourd'hui, les gens qui ont grandi comme moi avec le Club Dorothée, on n'a pas démordu de Dragon Ball. On est resté attaché à cela. Parce que ça raconte une histoire comme si on suivait une série, en fait, sur Netflix, un film ou au cinéma. Voilà, on a l'habitude de voir voilà, tous les opus sortir. Bah, Dragon Ball, c'est pareil. Donc je pense que je reste peut-être un enfant dans ma tête via la nostalgie. Mais j'ai envie de rester comme ça et de ne pas changer.
Il y a deux volets quand même. Donc, quand on parle de manga, on parle des animés et des mangas. Quand je parle manga, c'est des livres manga et des animés qui sont les séries animées. Ça a la même valeur à tes yeux, ça a la même importance à tes yeux. Il y a un truc qui arrive bien à se transmettre entre le papier et l'écran.
Alors en fait, tout dépend du studio d'animation. Par exemple, pour moi, le manga papier, c'est ce que l'auteur lui-même a réalisé. Donc ça vient de son cœur, de son imagination. Donc pour moi, Dragon Ball en manga, ça restera toujours la masterclass absolue. Ensuite, on a eu l'animé qui a été réalisé par la Toei Animation. Et je trouve qu'ils l'ont sublimé quand même. Ils ont sublimé le manga parce qu'ils ont respecté les codes que l'auteur avait instaurés. Et derrière, ensuite, il y a eu les OST, voilà, les ambiances, les musiques, les bruitages, les seiyuu japonais qui sont les comédiens de doublage, et même les comédiens de doublage français qui ont fait un travail vraiment remarquable. Et parfois, on a des mangas qui se retrouvent avec une série d'animation japonaise qui dénature un petit peu le manga papier de l'auteur, malheureusement.
Parce qu'il y a une question culturelle aussi là-dedans. Enfin, on l'a pas abordé là, mais il y a une question vraiment culturelle entre la culture nippone, qui est l'endroit où sont nées toutes ces histoires et où elles ont été écrites, et notre culture européenne. Il y a quand même tout un fossé qui est parfois pas facile à passer.
Bah bien sûr, hein, de toute façon, déjà à l'époque, dans les années 80 et 90, on l'avait bien vu, le passage des mangas et des animations japonaises en France a été très compliqué. On a eu des politiques qui ont fait, qui ont commencé à contribuer à l'arrêt du Club Dorothée, en disant que si...
Ça rendait débiles les gamins, ils disaient.
Bah, ils disaient, on va être débiles et on va tous devenir violents. Bon, ça va, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié, au contraire, je me porte très bien et je ne suis pas violent. Non, on arrivait en fait à faire la part des choses, mais vu que c'était nouveau et qu'on était habitué au Disney, aux bandes dessinées, Tintin, les aventures de Tintin, etc., pour eux c'était quelque chose de nouveau, ils n'avaient pas la maîtrise du sujet et je pense qu'ils ont eu des craintes. Et quand le Club Dorothée ensuite s'est arrêté, derrière ils ont vu que ça a continué tout de même, les mangas avec, à l'époque c'était TPS, Canal Satellite et tout ça, les chaînes sur le câble, et puis Internet ensuite qui est arrivé, et puis finalement ils se sont rendus compte qu'on n'est pas devenu fou, on n'est pas devenu des gens violents, des gens complètement malades, mentaux, et ils se sont dit bon, on a peut-être fait une erreur, et puis maintenant je pense que c'est rentré dans les nœuds tout simplement, quoi.
Damien, à la question, parce que lui pareil, hein, c'est, il a grandi avec ça.
Hein. Et cette boule de cristal.
Voilà.
Moi je suis de la première génération, j'ai kiffé, j'ai décroché, mais j'ai kiffé. Hein, je renie pas. Là il y en a un nouveau qui va sortir en long métrage, avec j'ai vu quelques extraits des effets visuels qualitatifs. Est-ce que tu en sais un peu plus? Est-ce que l'histoire ça va être cohérent? Est-ce que là, comme tu l'évoquais tout à l'heure, non, on est décalé? Est-ce qu'il est attendu par la communauté? Est-ce que quoi?
Eh bien, effectivement, oui. Alors, comme je disais, maintenant, la licence Dragon Ball se nomme Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est fait par Toyotaro, qui a pris le flambeau de Toriyama. Toriyama, de son vivant, il supervisait tout cela. Et on a eu, du coup, le manga Dragon Ball Super et l'animé Dragon Ball Super. Mais l'animé Dragon Ball Super a eu une pause. Arrivé au 131e épisode, on n'a plus rien eu depuis 2018. Et là, ça y est, il revient. Ils ont fait une annonce il y a de ça 3 semaines lors d'un événement officiel de Dragon Ball, nous disant qu'on allait avoir la suite de l'animé Dragon Ball Super, enfin, qui allait arriver. Donc, dans un sens, tant mieux, ça veut dire qu'ils prennent le temps de bosser et de travailler l'animation. Et surtout, ils veulent carrément refaire tous les premiers épisodes de Dragon Ball Super qu'ils avaient fait avec une nouvelle patte graphique bien plus bossée. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant, surtout pour la nouvelle génération. Ils vont pouvoir tout redécouvrir de A à Z. Et oui, c'est très attendu par la communauté parce qu'on n'a rien vu à part un seul screen, c'est-à-dire un seul dessin pour la suite de l'animé. Ça a fait plus de stats que le trailer du film Mario au cinéma. C'est quand même un truc de fou.
Merci beaucoup à toi, Sofiane le Geek, d'être passé par nos micros. J'ai envie de dire, Dragon Ball n'a plus aucun secret pour nous, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est une œuvre tellement large, tellement énorme, qu'il faudrait toute une vie pour en faire le tour, ou avoir commencé à 6 ans, comme Sofiane, en fait, hein, pour en faire le tour. Merci beaucoup à toi, Sofiane le Geek, d'être passé par nos micros. Me retourne vers Damien pour savoir si on peut avoir du Weris Kebab quand même au bout d'un moment.
Bonjour, ben oui. C'est Bernard Minet. We'll be right back.
Superstar, les Where is Kebab hein, sur l'antenne de Principe Actif qui accompagneront les petits Jésus voyageurs ce soir à la Brasserie Sport pour un combo musical ô combien sympathique à venir.
Vous écoutez Principe Actif.
J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
On continue notre tour hein, des stands, plateaux, structures, associations, membres de cette belle convention qui est la Pop and Geek à Conches-en-Ouche. Ça se déroule, je vous parle en direct d'un des gymnases, Pierre de Coubertin de mémoire. En tout cas, ils sont deux, je crois que c'est un des deux. C'est peut-être Pierre ou Coubertin, on ne sait pas, on n'a qu'à chercher, on trouvera. C'est aujourd'hui, mais c'est demain aussi, c'est juste incroyable. Oui, on peut acheter des choses, mais on peut aussi juste profiter et régaler nos yeux. Et par exemple, l'association qui est juste à côté de la radio, R2D2 Builders, l'association et la partie francophone, rien que cela déjà c'est quelque chose. Bonjour les gars.
Bonjour.
Merci, je vais vous redemander vos prénoms. C'est
Sylvain et Laurent.
Et Laurent, salut les gars et merci de prendre un instant. C'est impressionnant, c'est visuel. On a en l'occurrence combien de modèles? Deux mobiles et un troisième pour des démonstrations de R2D2 là.
Alors il y a deux modèles type R2, R6 ou autre en construction mobile fonctionnelle. Il y en a un qui est en construction en impression 3D et on a aussi un Rex de Star Tour Disneyland qui est aussi motorisé opérationnel.
Alors c'est marrant parce que vous me disiez tout à l'heure en micro, c'est une association internationale, vous avez des membres un peu partout dans le monde, des copains dans les pays frontaliers de la France, et vous êtes un peu l'enclave francophone, on peut dire ça?
C'est ça.
Ouais.
Donc nous c'est francophone, donc il y a des Français, on a quelques Belges francophones aussi, et il y a du Québécois.
Et du Québécois.
On a un ami au Québec.
Alors, ce qui est marrant, c'est que ça vient d'un peu partout dans l'Eure. Il y en a un d'Évreux, il y a un local de Conches.
Moi, je suis de Lille.
Voilà, de Lille, bienvenue à Minordiste.
Je suis normand, hein, mais je suis habité à Lille maintenant.
Ouais, mais c'est, bah, écoute, d'adoption. C'est cette passion pour l'univers Star Wars, mais quand même plus précisément, les R2.
Oui.
Parce faut préciser, il y a plusieurs modèles liés. Oui. Oui, on sait combien il y en a.
Il y a 9 modèles différents.
D'accord.
De type R2. Après, il y a plein de droïdes, parce que du coup, l'association est aussi ouverte aux autres droïdes.
Merci.
Mais toujours de l'univers Star Wars.
Toujours.
Même si on a un Wally.
Ouais, mais la classe, il est la classe celui-là.
Il est vraiment chouette.
Ouais, ils m'ont montré une photo, j'y sais, elle est incroyable. Vous étiez à une convention, vous étiez je sais pas combien. Et il y avait une trentaine de R2, R6. Enfin, il y a quasiment tous les modèles.
Presque. Deux fois par an, on a une grosse convention en Belgique qui réunit les associations France, Belge, Allemande, Anglaise, et du coup on se retrouve facilement à 30 ou 50 robots de l'univers Star Wars tout confondu.
Alors comment on procède? Il y en a un qui est un peu dans l'équipe, dans le collectif, dans l'association, qui a plus de spécificités ou de connaissances par exemple dans le domaine moteur, batterie, alimentation, mouvement, et d'autres qui vont être davantage sur la carrosserie, la coque, l'œuvre.
Après, ouais, ça va être suivant chacun. Parce que moi, par exemple, je suis un des tout premiers à avoir fait intégralement un impression 3D.
D'accord.
Parce qu'on a les plans papier avec toutes les cotes officielles. Et donc, moi, j'ai tout reproduit sur mon logiciel 3D. On a un copain qui, d'origine, est électricien, machin, etc. Donc, toute la partie un peu électronique, électrique, quand on a un doute ou quelque chose, on lui demande.
Il va gérer.
Il nous trouve des trucs. C'est. Voilà. Donc, chacun peut avoir un peu sa spécialité.
Et toi, par exemple?
Bah, moi, par exemple, j'avais plus de facilité avec une scie sauteuse et du bois. Donc je l'ai fait en bois et la tête c'est une lampe IKEA par exemple.
Il y en a un qui est ici en exemple derrière.
C'est le rouge et noir qui est en bois. Et tous les autres sont en impression 3D là.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et tu dis vous avez les cotes, les mesures. En fait, il y a la licence Star Wars, le propose, le partage, ou alors vous avez geeké, vous êtes passé entre les
non,
lignes.
Non, c'est à l'époque en fait l'association américaine dont toutes les instances au monde dépendent.
D'accord.
Un petit peu. Ils ont eu l'occasion d'aller chez George Lucas.
Rien que cela.
Au Lucas Ranch.
Ouais.
Pour pouvoir prendre les différentes mesures dans tous les sens du R2.
D'accord.
Pour pouvoir faire les plans et reproduire, pour faire vivre la licence. Et aujourd'hui, donc, que ce soit donc, la partie US ou toutes les parties France, de tous les pays, on est partenaire Lucas Disney.
J'y sais, c'est
donc on est
sérieux,
valide hein. Avec eux et de temps en temps ils nous envoient un petit mail pour dire ah tiens il y a tel truc que Disney participe, est-ce que vous pouvez y aller.
Génial.
Et pour les sons des R2 qui sont très nets, en fait on n'a pas enregistré le film et on a enlevé les voix, c'est directement Ben Burt qui était le monteur son du film qui a fourni les fichiers master à l'asso américaine.
Génial.
Et du coup on les partage.
Qui les repartage à vous.
Voilà. Donc on a les sons purs.
Ouais, les vrais.
Que on a lui les sons a originaux. Créé,
ah ouais, la classe. Ah
oui, oui. Parce que c'est vraiment la particularité du R2D2 quand même.
Le
R2 c'est vraiment le son. Oui. Moi je voulais savoir est-ce qu'il est codifié ce langage. Est-ce que vous qui êtes dans les petits papiers des R2, il y a une codification du langage.
Pour le langage de R2 pur.
Ouais.
Sincèrement je sais pas.
Non, après ils ont quand même fait des sons qui rapproche certaines émotions. Par exemple, il y a un son de triste qui fait.
Oui, oui.
Voilà. Donc,
il y a plusieurs catégories de sons qui correspondent.
Qui viennent quand même relancer sur.
Il y a quelques sons qui font un point un peu plus colère. Il y a des sons d'alarme, donc du coup, qu'il est un peu. Voilà.
Il a quand même quelques émotions.
Ouais, ouais, il y a de la particularité.
Le R2. Question presque celle qui peut créer la polémique. Dans l'univers Star Wars, il y a plusieurs volets de Star Wars. Et alors, au bout d'un moment, quand on est dans l'association R2. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, bah ouais. Là on l'a R2. Hein. Et quand on est passionné comme ça de R2, quand on parle de R2, on s'arrête à quel volume, à quel volet, à
4,
quel
5,
truc
6.
4, 5, 6, on est d'accord.
Les originaux, la toute première trilogie. Quoi.
Voilà, la première trilogie, 4,
moi,
5, 6.
Moi je suis plus de 1 à 6.
Ouais, moi aussi je suis un 6. Moi je suis un 6 aussi. Après j'ai plus de mal.
Il
si...
y a des bonnes choses.
Parce que ouais, 7, 9 quand même, on est ailleurs.
C'est différent. On ne cherche pas là.
Non,
on va rentrer en colère là.
Moi je reste tolérant quand même. Même si voilà, clairement c'est un 6 terminé. Bonsoir.
7-8, ça peut se regarder. Le 9, clairement pas.
Ouais.
Sur toutes ces mine de rien, on est quand même dans une culture Star Wars. Là, on n'est pas juste dans dans un film ou dans un. Non, on est dans une culture Star Wars qui a révolutionné quand même aussi la science-fiction. Enfin, la façon de réaliser des films. C'est peut-être pour ça aussi que ça s'arrête jamais, qu'il y a toujours une continuité là-dedans. On a par exemple pas loin de chez nous des clubs de sabre laser, par exemple. Alors rien à voir avec les R2, hein, mais on est quand même dans dans une continuité de cet univers.
Il y a un club à Breteuil,
ouais,
c'est des amis.
Ouais.
Ah oui, c'est-à-dire que ouais, il y a des liens, le lien Star Wars
on
est là.
Ouais.
On se voit sur les salons, sur les conventions, on se retrouve souvent avec beaucoup d'autres associations.
Et ils font pas de combat avec vous, ils savent qu'ils ont perdu.
Non, on n'a pas de sabre.
Il y a des signes de reconnaissance Jedi ou pas? Il y a des signes de reconnaissance Jedi entre l'univers Star Wars.
Ils font des signes de main.
Et les gars, vous êtes amenés, là, il y a une convention qui est plus local. Bon, toi, tu viens du Nord, il y en a parmi vous qui étaient Évreux, Conches, Compagnie. Partout en France, en fait, alors, j'imagine.
Ouais, parce qu'en fait, on a trois gros groupes qui font régulièrement des conventions. Donc, nous, la partie Nord, donc la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, on se retrouve vraiment tous régulièrement. On a un petit groupe de 3-4 qui sont du côté de Strasbourg. Donc, pareil, ils font souvent dans leur coin. Et on a encore un autre groupe important dans le sud.
D'accord. Ah, vous arrivez à couvrir tout le territoire français.
Voilà, c'est ça. Du après, il y a moins de gens dans le sud-ouest. Là, on a personne même.
Voilà. Et on doit en avoir deux aujourd'hui maintenant en Bretagne.
Ouais. J'avais demandé pour la Bretagne.
Voilà.
Il y en a.
La communauté, elle est liée comment? C'est un groupe de discussion, c'est une communauté ouverte. On peut accéder, on a un fan de l'univers, on peut voir un peu vos infos. Vos...
Bah, on a un site internet.
D'accord.
Après,
qui se nomme du coup R2Builders.fr.
Voilà,
merci.
Tout à fait. Dans lequel après il y a le forum où chacun peut s'inscrire pour dire voilà, j'aimerais bien construire un R2, etc., etc. Et après, il y a vraiment l'association où là, bah, chacun paye sa cotisation et là, il y a un petit peu plus d'infos, plus d'échanges, de partage.
Et sur le forum, on a des parties, on a une partie électronique, on a une partie travail du bois, pour chaque partie du corps aussi, on a une partie pour comment on fait les jambes. Voilà, il faut voir aussi sur quelle base les gens partent. Si on part sur une impression 3D, donc on va avoir une catégorie impression 3D qui s'agrandit de plus en plus en ce moment, puisque...
Oui, c'est davantage accessible que la pratique manuelle comme toi, tu vois.
Et quand on a une bonne imprimante 3D, c'est le plus abordable à l'heure actuelle.
C'est combien d'heures quand même en moyenne, j'essaie. Tu n'arrives pas à quantifier, bien sûr, mais on est sur une centaine d'heures, on est sur des dizaines d'heures, on est quoi?
Des milliers d'heures.
D'accord, ah ouais.
Ouais.
Chaque petite pièce...
On estime à peu près quand une personne peut faire que ça et qu'il a le budget pour faire que ça, en 6 mois, il peut faire quelque chose. Mais c'est non-stop.
D'accord.
C'est toute la journée, machin, etc. Et il faut avoir les connaissances pour pouvoir tout faire d'un coup.
Faut tout avoir, les outils, voilà. les machines.
Après, en général, ça s'étale plus sur 3, 4, 5 ans pour pouvoir faire quelque chose qui est relativement fini.
D'accord.
Mais bon, c'est jamais fini. On a toujours un truc à refaire dessus, une amélioration.
Justement, là, on parlait de temps. Moi, j'ai envie de parler d'espace plutôt. À la maison, ouais. Et là, je vois bien que je mets encore le doigt sur un truc. L'espace que ça prend dans la maison, en termes de volume au-delà du temps. Et quelle négociation familiale on est obligé de faire là-dedans?
Ça dépend des personnes, en fait. Moi, quand j'ai commencé le mien, c'était dans la salle à manger. Donc, il fallait, entre chaque repas, débarrasser la table et tout par terre pour qu'on puisse manger. Et une fois fini, il prenait qu'un mètre carré dans la salle à manger. Aujourd'hui, j'ai déménagé et j'ai un atelier complet au sous-sol. Là, j'ai la place de mettre mon bazar sans le ranger. Je gagne du temps.
Ça faisait partie des critères de trouver l'endroit où vivre.
Exactement.
Ouais, non, mais c'est des fois les passions maîtrisent les choix.
On a beaucoup de critères comme ça au bout d'un moment. La maison, il faut de l'espace pour le ranger le R2. La voiture, il faut quelque chose d'assez grand pour mettre tout le matériel pour aller en convention. Des trucs comme ça.
Voilà, non, c'était anodin comme ça, mais la place que ça prend physiquement fait partie des.
Ça prend pas mal de place quand même. Parce qu'il y a le R2, il y a la caisse avec les outils, moi j'ai tout le décor qui est là derrière aussi, qu'il faut ranger, etc. Ça peut prendre un petit peu d'espace.
Ouais, c'est intéressant parce que vous avez toute l'explication de votre association et des éléments de précision sur justement sur R2D2 en l'occurrence.
Ouais, bah là-bas, ouais, c'est un petit roll-up avec l'histoire de R2, comment il a été conçu, prévu, etc. Quelques images avec Kenny Baker qui est à l'intérieur.
Donc à l'époque, quand ils ont fait les premiers films, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main. Et du coup, le R2, c'était comme le mien, en fait, la tête, c'était un abat-jour. Ils étaient en bois. Et puis avec beaucoup de matériaux de récupération. Par exemple, les yeux des R2, c'est des petits projecteurs qu'il y a dans les avions, normalement. Ouais. Et ils ont récupéré. Mais à l'époque, ils faisaient ça sur tout le film. Même les sabres laser qui sont faits avec des pommeaux de douche et des flashs d'appareils photo.
Faut le savoir.
Ouais. Ouais.
Moi là, il y a quand même, ça fait un bon quart d'heure que ça discute et tout. Pour moi, il y a un manque dans cet échange. Le fidèle compagnon de R2D2, le fameux 6PO, on n'en a pas parlé.
C3-6PO,
pardon. Ouais. On n'en parle pas, il n'existe pas. On ne fait allusion à aucun moment de son ami fidèle.
Il est trop doré, il est trop light.
À aucun moment, on n'en parle.
Si.
Il y a une communauté.
Non, ils font partie du club.
D'accord.
On en a un qui a un costume de C3PO, il rentre dedans. Ouais. Il a le physique pour rentrer dedans. Mais il ne peut garder le costume que 15 minutes et après il étouffe. Et il se déshydrate complètement.
Il l'a en quelle matière, vous le savez?
En impression 3D.
D'accord.
Impression 3D. Il a fait faire la peinture en Angleterre, du coup c'est une peinture or magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir le 6PO, l'origine devant nous, quoi.
Ouais. Énorme.
Ah oui, oui, c'est... il est magnifique. Hein, c'est... Mais il galère parce qu'il faut une équipe aussi pour qu'il se déplace, parce qu'il ne voit rien.
Ah ouais.
Pour l'habiller, voilà. Pareil, il faut deux mecs à côté pour le l'habiller.
Bah, dans le film, il galérait à se déplacer aussi d'ailleurs. Hein, ah ouais, quand pareil, même, hein, on sentait bien que ce n'était pas hyper, hyper fluide.
Et nous, on n'a personne dans le R2, contrairement au film. Où
il y avait, qui rentre dedans.
Oui, il y avait quelqu'un dedans.
Il y avait Kenny Baker qui était dedans.
Ah oui.
Et. Bah, une des super anecdotes, c'est qu'ils tournaient dans le désert en Tunisie et qu'une fois, bah, ils sont partis manger, ils l'ont oublié dedans, en plein soleil.
Voilà.
Il a eu très chaud.
Du coup, ils ont changé de comédien après.
Non, ça va.
Ils ont pensé à un moment donné.
Il a eu très, très chaud.
Ah bah oui, il y a de quoi quand même. Oui, parce que ça tournait dans le désert, effectivement, les Star Wars étaient...
En Tunisie, ouais.
Tatooine était le désert, quoi.
C'est ça, et là, le dôme était en métal cette fois. Donc,
ah ouais.
Là, ça chauffe.
Ça fait une cocotte minute.
Et on n'a pas parlé de l'avion de chasse. Le
X-Wing. X-Wing.
Merci beaucoup. Tu me disais en micro aussi qu'il allait avoir un long métrage dédié à la chose, parce que oui. Dans votre convention en Belgique, il y en a un qui l'a construit.
Alors c'est un Français qui.
Ah c'est un Français.
C'est un Français du Nord. Ouais.
Du Nord, TT Game, et il est garagiste et donc il a un hangar énorme et il a construit un X-Wing échelle 1
sur son temps libre.
Échelle 1, taille réelle quoi. Bam.
Taille réelle. Le vaisseau de course qu'on voit dans Star Wars épisode 1, il l'a refait taille réelle aussi, avec tous les détails. Ils sont tout en métal, hein, un peu de résine et un travail de peinture incroyable.
Et dernièrement, il a fait les motojets qu'on peut voir dans la forêt là, de Andorre. Hein.
C'est un passionné.
C'est en fait, alors c'est dommage qu'on puisse pas tourner avec les fans qui font des trucs, vu qu'il faut d'abord le film avant d'avoir des fans. Mais finalement, il y a eu le même boulot qui a été réalisé par les fans qui a été fait par l'équipe de tournage à l'époque du premier Star Wars, en fait. Hein. C'est l'épisode 4, notamment.
Et du coup, c'est reconnu quand même par Lucasfilm et Disney. Nous, l'association, comme disait Sylvain tout à l'heure, elle est reconnue par Lucasfilm et Disney. Et notamment, c'est les constructeurs anglais qui font, et certains américains qui font tous les droïdes des films récents, les films, les séries actuelles genre Mandalorian, c'est tous les droïdes sont fabriqués par R2 Builder en partie.
Ah oui, ça veut dire que c'est ça veut dire qu'ils font même appel maintenant aux, je veux dire, aux fans de la de la saga pour fabriquer.
Les studios sont en Angleterre, du coup ils ont fait appel à l'asso anglaise pour pouvoir faire les nouveaux droïdes. Donc on a un de nos copains, Lito Orsay, qui travaille pour Lucas Disney pour faire les droïdes.
Et s'ils ont besoin de Stormtroopers, les soldats donc de l'Empire, bah il y a l'association la 501e Légion qui ont des centaines de cosplayers comme ça. Et bah s'ils ont besoin de faire une scène où il y a beaucoup de monde, ils appellent les cosplayers de l'assaut. Parce que leurs costumes sont
exactement
ils sont au détail
identiques, d'accord.
Ils sont validés,
ils sont certifiés. Quoi.
C'est ça.
C'est quoi ? Faites sans Disney, faites sans les studios. Quoi. Au bout d'un moment, faites-nous le numéro 10, 11, 12. Là.
Ah, il y a quelques fans qui font des fan films, on appelle, et
qui sont très très bien.
Qui nous contactent de temps en temps aussi pour avoir un droïde dans le film. Voilà.
Bah ouais, carrément. Ouais, j'imagine que ça doit intéresser du monde.
Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir le son pour conclure ce bel échange, parce que on a un timing, j'y sais, et on va finir en beauté avec le lien, le trait. On rappelle R2D2 Builders. Merci les gars, vous étiez deux à nos micros, mais il y a toute une équipe. Vous êtes 5, 6, 7, vous la relayez demain. Merci d'avoir pris un instant, c'était ô combien intéressant. Et c'est pas qu'une histoire de geek, parce que là pour le coup, ils font appel à leur cerveau, ils se creusent les méninges. Ils sont en train d'essayer des techniques et ils reproduisent des R2-D2 incroyables. Et ils ont même le son original, on l'a dit en début d'échange. On l'écoute.
C'est même R2 qui va conclure cette émission.
Ah bah oui, c'est le mieux placé.
Merci.